Audible Studio présente La roue du temps, tome 9, Le cœur de l'hiver, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Les sceaux qui retiennent la nuit faibliront, et au cœur de l'hiver, au milieu des lamentations et des grincements de dents, naîtra le cœur de l'hiver. Celui qui chevauchera un destrier noir et dont mort sera le nom. Extrait du cycle de Carrighton, Les prophéties du dragon. Prologue. Neige. Trois lanternes diffusaient une lumière vacillante, mais assez forte pour éclairer la petite pièce au mur et au plafond blanchi à la chaux. Céane gardait pourtant les yeux rivés sur la lourde porte de bois. Un comportement illogique, elle le savait, et même stupide pour une représentante de l'âge à blanc. Son tissage de saïdar sur l'encadrement de la porte lui permettait de capter les lointains échos de bruits de pas dans le labyrinthe de couloirs. Des murmures qui s'évanouissaient à peine les avait-elle entendus. Ce tissage très simple, Céane le tenait d'une amie, à l'époque depuis longtemps révolue de son noviciat. Grâce à ce truc, elle serait avertie longtemps à l'avance si quelqu'un approchait. Cela dit, très peu de gens s'aventuraient jusqu'au deuxième sous-sol de la Tour Blanche. Le tissage charria jusqu'à ses oreilles des couinements étouffés de rats. Par la lumière. Depuis quand n'y avait-il plus eu de rats à Tarvalon et dans la tour? Certains de ces rongeurs espionnaient-ils pour le compte du ténébreux? Troublée, Céane se passa la langue sur les lèvres. La logique n'avait rien à voir avec tout ça. Si absurde que ce fût, c'était ainsi. La sœur Blanche faillit éclater de rire. Non sans effort, elle s'empêcha de sombrer dans l'hystérie. À tout prix, elle ne devait pas penser au rat.
« Concentre-toi sur autre chose. »
Dans le dos de Céane, un cri retentit. Très bref, et vite suivi d'un gémissement.
« Concentre-toi, refuse d'entendre. »
Si ses compagnes et elle se retrouvaient dans cette pièce, c'était en partie parce que les dirigeantes des Ajas semblaient enclines aux réunions secrètes. Dans une alcôve discrète de la bibliothèque, n'avait-elle pas surpris Ferran Neheran en pleine conversation, à voix basse, avec Jessie Bilal, une sœur très haut placée dans la hiérarchie de l'Aja Marron, si elle n'était pas à sa tête? Avec Suana Dragand, de l'Aja Jaune, Céane pensait être sur un terrain moins glissant. Pensait. Mais pourquoi Ferran et Suana, toutes deux vêtues d'un manteau ordinaire, étaient-elles allées se promener dans un coin isolé du complexe de la tour? Même si la froideur était de mise, les représentantes des différents Ajas se parlaient toujours. Toutes avaient vu des scènes similaires, sans préciser de nom pour leur propre Aja, bien entendu, bien que deux d'entre elles aient mentionné Ferran. Une énigme perturbante. Ces derniers temps, la Tour Blanche était un marigot où tous les Ajas se sautaient à la gorge. Malgré ça, les dirigeantes se voyaient en secret. À part les membres de l'Aja concernés, personne ne savait qui était à sa tête. Quoi qu'il en soit, les chefs semblaient bel et bien se connaître. Que mijotait-elle? Oui, quoi donc? Dommage que Céane n'ait pas osé poser la question à Ferran, pourtant ouverte aux franches conversations. Mais ce n'était vraiment pas le moment. Concentrée ou pas, Céane ne parvint pas à rester focalisée sur le sujet. Si elle fixait la porte et tentait de résoudre des énigmes, c'était pour ne pas regarder derrière elle, dans son dos, où retentissaient les gémissements et les cris étouffés. Comme si penser l'obligeait à le faire, elle se tourna vers ses compagnes, le souffle de plus en plus court et heurté. Très haut, au-dessus de sa tête, il neigeait sur Tarvalon. Ici, on crevait de chaud. La sœur Blanche se força à voir ce qu'il y avait devant ses yeux. Son châle à franges marron posé sur les bras, Saïrine, bien campée sur ses jambes, pianotait sur le manche du couteau d'Altara, glissé à sa ceinture. Malgré son teint olivâtre, elle était assez blême, de rage, pour qu'on distingue très bien la cicatrice qui lui barrait la joue. Au premier coup d'œil, Pevara semblait plus calme. Pourtant, une main serrant nerveusement le devant de sa jupe brodée de rouge, elle brandissait dans l'autre le bâton des serments, un cylindre d'ivoire, comme s'il s'agissait d'une massue qu'elle avait la ferme intention d'utiliser. D'ailleurs, c'était peut-être le cas. Bien plus dur que le laissait penser sa silhouette enveloppée, Pevara était assez déterminée pour que Saïrine, en comparaison, passe pour une douce agnelle. De l'autre côté du siège du repentir, la petite Yukiri avait les bras enroulés autour du torse, et les longues franges gris-argent de son châle ondulaient au rythme de ses tremblements. Après s'être humidifié les lèvres avec la langue, elle jeta un regard angoissé à la femme qui se tenait à ses côtés. Ressemblant plus à un garçon efféminé qu'à une sœur jaune de très haut niveau, Doessine restait de marbre face aux événements en cours. C'était pourtant elle qui manipulait les tissages dirigés vers le siège. Les yeux braqués sur le terrain gréal, elle se concentrait sur sa tâche au point d'en avoir le front lustré de sueur. Toutes les sœurs présentes étaient des représentantes, y compris la grande blonde qui se tortillait sur le siège. En âge, Talen avait les cheveux plaqués sur le front et son chemisier de lin lui collait à la peau. Dans un coin de la pièce, ses autres vêtements gisaient en tas. Ses paupières baissées se contractant sans cesse, elle gémissait pour implorer une clémence qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir. Sehane ne parvint pas à détourner le regard. Talen était son amie, enfin, une ancienne amie. Malgré son nom, le terrain gréal ne ressemblait pas du tout à un siège. Nul n'aurait su dire de quel matériau était fait ce gros bloc rectangulaire couleur gris marbré. Sauf sur le dessus, l'artefact était dur comme de l'acier. À l'endroit où était étendue la sœur verte d'habitude imperturbable, la matière, très souple, s'adaptait à son corps, si violemment qu'elle remua. Les tissages de Doessine pénétraient dans le bloc via la seule ouverture, un trou rectangulaire de la taille d'une paume situé sur un côté et entouré d'encoches ménagées à intervalles réguliers. À Tarvalon, les criminels finissaient dans cette salle, où ils subissaient l'épreuve du siège du repentir. Une expérience qui les forçait à vivre les conséquences soigneusement sélectionnées de leur forfait. Une fois libérés, tous fuyaient l'île. Distraitement, Sehane se demanda si cet usage du siège correspondait à celui qui était en vigueur durant l'âge des légendes.
« Que voit-elle ? »
ne put-elle s'empêcher de demander à voix basse. Talen faisait bien plus que voir. Pour elle, tout devait sembler réel. La lumière en soi louée, elle n'avait pas de champion. Un cas de figure presque unique pour une sœur verte. Selon elle, une représentante pouvait fort bien s'en passer. Aujourd'hui, cette déclaration prenait un tout autre sens.
« Des maudites reloques la fouette !»
croassa Doessine avec un rien accent kyrienien. La preuve, s'il en fallait une, qu'elle était tendue à craquer.
« Quand ils auront fini, elle voit un gros chaudron chauffé sur un feu, et c'est qu'un Myrdraal l'arluc. La suite, elle ne peut pas l'ignorer, ce sera l'un ou l'autre. Que la lumière me brûle si elle ne craque pas cette fois !»
Doessine s'essuya rageusement le front.
« Cesse de m'interrompre avec tes questions. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. « Trois fois qu'il y passe, »
murmura Yukiri.
« Les pires bandits craquent sous le poids de leur culpabilité, entre autres choses, après deux séances. Et si elle était innocente, c'est comme si nous volions des moutons sous le regard de leur berger. »
Même tremblante, Yukiri parvenait à conserver son allure de reine. En revanche, ses propos restaient dans le ton de ce qu'elle était jadis, à savoir une villageoise. Elle foudroya du regard ses compagnes.
« La loi interdit d'utiliser le siège sur des initiés. Nous risquons nos postes, rien de moins. Et si nous exclure du hall ne suffit pas, on nous bannira. Cerise sur le gâteau, on nous fouettera avant de nous laisser partir. Que la lumière me brûle. Si nous nous trompons, nous risquons d'être calmés. »
Sehane frissonna. Si leurs soupçons étaient justes, elles échapperaient au moins à ce sort terrible. Non, pas leurs soupçons, leur certitude. Elles ne pouvaient pas s'être trompées. Même si elles avaient raison, Yukiri parlait d'or sur tous les autres points. Les lois de la Tour Blanche ne se souciaient pas de la nécessité ni de quelque intérêt supérieur. Cela dit, si elles ne se trompaient pas, le jeu en valait la chandelle.
« Lumière, fais que nous soyons dans le vrai, je t'en conjure. »«
Es-tu sourde et aveugle ?»
cria Pevara en menaçant Yukiri avec le bâton des serments.
Elle a refusé de prêter de nouveau le serment qui interdit de mentir. Ça ne peut pas être seulement à cause de l'imbécile fierté des sœurs vertes. Surtout après que nous l'eûmes toutes fait sans protester. Quand je l'ai isolée de la source, elle a essayé de me poignarder. Est-ce le comportement d'une innocente ? Allons, réponds ! Pour ce qu'elle en savait, nous voulions peut-être lui parler jusqu'à ce que nos langues se dessèchent. Pourquoi aurait-elle craint autre chose ?
Merci à toutes les deux d'enfoncer les portes ouvertes.
Lâcha Sairine.
« Yukiri, il est trop tard pour revenir en arrière, donc autant avancer. Pevara, si j'étais toi, je ne m'en prendrai pas à une des quatre femmes à qui je peux me fier dans cette tour. »
Empourpré, Yukiri tira sur son châle, et Pevara eut l'air un rien penaude. Un rien. Bien que toutes ces femmes soient des représentantes, Saïrin semblait avoir pris l'ascendant sur les autres. Sehein n'aurait su dire ce qu'elle en pensait. Quelques heures plus tôt, Pevara et elle étaient deux vieilles amies menant une quête dangereuse. Des égales qui prenaient leurs décisions ensemble. Désormais, elles avaient des alliés, et la Tour Blanche aurait dû s'en réjouir. Mais elles ne se trouvaient pas dans le hall, et ne pourraient donc pas se réfugier derrière leurs prérogatives de représentantes. Le système hiérarchique de la Tour reprenait ses droits, avec toutes les discriminations subtiles, ou pas si subtiles que ça, qui déterminaient la domination des unes sur les autres. Saïrin, si on voulait creuser, avait été novice puis accepté beaucoup plus longtemps que ses compagnes. Mais ses 40 ans de mandat au hall pesaient bien plus lourd que ça. Avant de prendre une décision, si elle daignait demander l'avis de Sehein, celle-ci aurait toutes les raisons de s'en réjouir. Si stupide que ce soit, en avoir conscience était dérangeant pour la sœur Blanche, comme une épine dans son talon, oui.
« Les Trollocs la traînent vers le chaudron !»
annonça Doessin. Un gémissement s'échappa des mâchoires serrées de Talen. Tremblant si fort qu'elle donnait l'impression de vibrer, elle marmonna.
« Je ne sais pas si je peux, si je veux que c'est fichu.
« Réveillez-la !»
ordonna Saïrin, sans même consulter ses compagnes du regard.
« Yukiri, cesse de bouder et tiens-toi prête !»
La sœur grise foudroya Saïrin du regard. Malgré tout, quand Doessin relâcha ses tissages, Talen ouvrant soudain ses grands yeux bleus, la reine villageoise tissa le saïdar et enveloppa la prisonnière d'un bouclier qui l'isolerait de la source. Saïrin commandait, tout le monde le savait, et il n'y avait rien à faire. Une épine très pointue, oui. Le bouclier se révéla presque superflu. Terrifiée, Talen haletait comme si elle venait de courir des lieux et des lieux. Sous elle, depuis que Doessin ne canalisait plus, le sommet mou du siège ne s'adaptait plus à ses mouvements. Les yeux écarquillés, elle fixa un moment le plafond, puis tenta de baisser les paupières, mais elles se relevèrent d'elles-mêmes. À l'évidence, les souvenirs qui défilaient dans son esprit lui retournaient l'estomac. Pevara approcha du siège et braqua sur Talen le bâton des serments.
« Renie toutes tes autres allégeances et prête de nouveau les trois serments »
cria-t-elle. Talen eut un mouvement de recul, comme si le bâton était un serpent venimeux. Quand Saïrin se pencha vers elle, la sœur verte se tortilla de plus belle.
« La prochaine fois, Talen, tu finiras dans le chaudron, ou entre les bras affectueux du Myrdral. »
Le visage déjà dur, Saïrin parlait d'un ton qui aurait glacé les sangs d'un Trolloc.
« Et on ne te réveillera pas au dernier moment. » Si ça ne suffit pas, nous recommencerons encore et encore. Tant pis si nous devons rester ici jusqu'à l'été. »
Doessin fit mine de protester, puis renonça avec une grimace qui en disait long. Dans ce groupe, elle seule savait faire fonctionner le siège. Pourtant, on ne lui accordait pas plus de considération qu'à Sehein. Ses yeux pleins de larmes rivés sur Saïrin, Talen éclata en sanglots. Aveuglée, elle tendit une main et tâtonna jusqu'à ce que Pevara lui glisse le bâton entre les doigts. S'unissant à la source, cette même Pevara canalisa un filament d'esprit dans l'artefact. Serrant le bâton à s'en faire blanchir les phalanges, Talen n'ouvrit pas la bouche.
« Doessin !»
lâcha Saïrin.
« Je crois qu'il est temps de la rendormir. »
À travers ses sanglots, Talen réussit à marmonner quelques mots.
« Je renie toutes mes autres allégeances. »
Un hurlement déchirant se répercuta dans la pièce. Sehein sursauta puis déglutit péniblement. D'expérience, elle savait ce qu'il en coûtait de renier un seul serment. Renoncer à tous à la fois devait être... Eh bien, elle avait la réponse sous les yeux. Talen cria jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'air dans ses poumons. Puis elle inspira à fond et recommença à hurler. Un instant, Sehein redouta que ça finisse par attirer des curieuses. Prise de spasmes, la grande sœur verte battit des bras et des jambes. Puis elle se cambra au point que seuls ses talons et sa tête touchaient encore la surface grise. Tous les muscles tendus, elle se tétanisa. La crise cessa d'un coup, et elle retomba sur la surface grise, inerte et pleurant comme une enfant perdue. Alors que le bâton glissait de ses doigts gourds, Yukiri murmura ce qui semblait être une prière.
« Par la lumière !»
souffla Doessin.
« Par la lumière ! Par la lumière !»
Pevara saisit le bâton et le glissa de nouveau entre les doigts de la sœur verte. Dans des circonstances pareilles, l'ami de Séhein ignorait jusqu'à l'existence du mot pitié.
« Maintenant, prête les trois serments !»
ordonna-t-elle. Un instant, il sembla que Talen allait refuser. Mais elle répéta lentement les serments qui faisaient de ces six femmes des Aes Sedai et qui les unissaient. Ne jamais prononcer un mot qui ne soit pas la vérité. Ne jamais fabriquer une arme destinée à tuer un être humain. Ne jamais utiliser le pouvoir de l'unique comme une arme, sauf pour défendre sa vie, celle de son champion ou celle d'une autre sœur. Quand elle eut fini, Talen recommença à trembler et pleura en silence, sans doute parce que les serments se refermaient douloureusement sur elle. Au début, l'expérience n'avait rien d'agréable. Sans doute. Pevara énonça le serment supplémentaire que la sœur verte allait devoir prêter. Talen tressaillit, mais elle répéta docilement.
« Je jure de vous obéir aveuglément à toutes les cinq. »
Des larmes aux yeux, elle continua à regarder dans le vide.
« Réponds-moi franchement, » dit Saïrine. « Es-tu membre de la Jade Noire ?»«
Oui. »
Comme si sa gorge était rouillée, Talen croassait plus qu'elle parlait. À sa grande surprise, Séhein se pétrifia. Une réaction étrange, alors qu'elle s'était lancée sur la piste de la Jade Noire dont beaucoup de sœurs mettaient l'existence en question. S'alliant à une autre sœur, une représentante, elle avait aidé à transporter Talen, saucissonné dans des flux d'air, le long des couloirs déserts du sous-sol, et violé une bonne dizaine de lois de la tour, sans parler de quelques crimes majeurs commis en passant. Tout ça pour pouvoir poser une question à laquelle elle connaissait déjà la réponse. Maintenant, c'était clair, la Jade Noire existait, et elle avait devant elle un suppôt des ténèbres qui portait le châle, une sœur noire. Faire face à la réalité de la Jade Noire se révélait bien plus difficile que postuler son existence. Pour ne pas claquer des dents, Séhein dut serrer les mâchoires. Il fallait garder son calme et penser rationnellement, même si des cauchemars soudain faits chair arpentaient les corridors de la tour. Entendant un profond soupir, Séhein comprit qu'elle n'était pas la seule dont le monde venait de s'écrouler. Bien que secouée, Yukiri riva les yeux sur Talen. Quoi qu'il arrive, elle garderait cette traîtresse coupée de la source, quitte à se carboniser. Troublée, Doessine lissait distraitement sa jupe jaune. Seules Saïrine et Pevara semblaient sereines.
« Bien, »
souffla Saïrine.
« La Jade Noire. »
Elle inspira à fond et parla d'un ton plus brusque.
« Plus besoin de bouclier, Yukiri. Talen, tu ne tenteras pas de t'enfuir ni de résister. Et tu ne toucheras pas à la source sans avoir la permission de l'une de nous cinq, ou de quiconque prendra notre suite quand nous t'aurons livré. Yukiri ?»
Le tissage se dissipa autour de Talen. Mais l'aura du Saïdar continua d'envelopper Yukiri, à croire qu'elle doutait de l'efficacité du bâton sur une sœur noire.
« Avant de la livrer à Elaïda, »
dit Pevara,
« je veux lui arracher autant d'informations que possible. Des noms, des lieux, n'importe quoi, tout ce qu'elle sait. »
La famille de Pevara avait succombé sous les coups de suppôts des ténèbres. Pour traquer les sœurs noires, l'ami de Séhein était prête à s'exiler. Sur le siège, Talen émit un son à mi-chemin entre le rire amer et le sanglot.
« Si vous faites ça, nous crèverons toutes, toutes. Elaïda appartient à la Jade Noire.
Impossible !»
s'écria Séhein.
« C'est elle qui m'a ordonné de le traquer.
Rien n'est impossible. »
murmura Doessine.
Talen vient de prêter de nouveau les serments. Elle ne peut pas mentir.
Yukiri acquiesça avec ferveur.
Réfléchissez un peu,
grogna Pevara, révulsé.
Comme moi, vous savez qu'on peut proférer un mensonge quand on croit que c'est la vérité.
Surtout quand c'est la vérité,
dit Saïrine.
Quelle preuve as-tu, Talen? Tu as vu Elaïda à vos réunions?
Saïrine serra très fort le manche de son couteau. Plus que toutes les autres, elle avait dû lutter pour gagner le droit de rester à la tour puis de porter le châle. Pour elle, la tour blanche comptait plus que son foyer et sa propre vie. Selon la réponse de Talen, Elaïda risquait de ne pas vivre assez longtemps pour comparaître devant le hall.
« Il n'y a pas de réunion, »
marmonna Talen.
« À part le Conseil suprême, je suppose. Mais Elaïda doit être dans le coup. » Les sœurs noires ont connaissance de tous les rapports qu'elle reçoit, même les plus secrets. Elles sont informées de tout ce qu'on lui dit et commandent ses décisions avant qu'elle les ait annoncées.
des jours à l'avance, parfois des semaines. Comment est-ce possible, si ce n'est pas elle qui les renseigne ?
Talen se redressa péniblement et tenta de regarder chacune des cinq sœurs dans les yeux. Sa nervosité gâcha l'effet recherché.
Nous devons filer et trouver un endroit où nous cacher. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais partons avant de nous faire tuer.
Céane jugea étrange le brusque retournement d'alliance de la sœur verte. Voilà qu'elle disait « nous » en parlant du groupe. Mais le vrai problème était ailleurs, et elle ne devait pas se cacher la tête dans le sable. Et Laïda l'avait-elle réellement chargée de débusquer la Janoire ? D'allusion subtile en allusion subtile, avait-elle eu autre chose en tête ? Comme presque toutes les Aes Sedai, elle montait sur ses grands chevaux dès qu'on mentionnait simplement les sœurs noires. Pourtant,
Elaïda a amplement démontré sa stupidité,
dit Saïrin.
Et je regrette de l'avoir soutenue. Mais je refuse de croire qu'elle appartient à l'âge noir. Et pour changer d'avis, il me faudra des preuves plus solides.
Pevara approuva du chef. Étant une sœur rouge, l'âge d'origine d'Elaïda, elle aurait également besoin d'éléments concrets.
D'accord, Saïrin,
dit Yukiri.
Mais nous ne pourrons pas retenir longtemps Talen sans que les sœurs vertes se posent des questions. Sans même mentionner la réaction des sœurs noires. Il faut nous décider vite. Sinon, nous sommes toujours en train de creuser au fond du puits quand l'orage éclatera. Pas question d'en parler à Elaïda avant d'être en mesure de blesser grièvement la Janoir en lui portant un seul coup,
trancha Saïrin.
Ne me contredis pas, Pevara. Ça tombe sous le sens.
Pevara afficha son scepticisme, mais se tut.
Si Talen dit vrai,
continua Saïrin,
les sœurs noires savent de quelle mission est chargée Céane, ou elles l'apprendront bientôt. Nous devons donc assurer sa sécurité. À cinq, en la comptant, ce ne sera pas facile, d'autant que nous ne pourrons nous fier à personne sans avoir de preuves irréfutables. Au moins, nous tenons Talen. Qui sait ce que nous apprendrons avant de l'avoir totalement vidée de son jus ?
Talen voulut montrer qu'elle était prête à collaborer, mais personne ne lui accorda une once d'attention. Céane sentit sa gorge devenir plus sèche que du vieux parchemin.
Nous ne serons peut-être pas si seuls que ça,
dit Pevara sans enthousiasme.
Céane, parle-leur de ton plan avec Zera et ses amis. Un plan ?
Répéta Saïrin.
Qui est cette Zera ? Céane !
La sœur blanche sursauta.
Quoi ? Oh. Pevara et moi, nous avons découvert un petit groupe de rebelles ici à la tour. 10 sœurs chargées de prêcher la révolte.
Saïrin voulait garantir sa sécurité, non ? Sans même lui demander ce qu'elle en pensait, alors qu'elle était une représentante, comme toutes les autres. Et une Aes Sedai depuis près de 150 ans. Quel droit avait Saïrin ou quiconque d'autre de...
Avec Pevara, nous avons commencé à étouffer cette sédition. Une de ces femmes, Zera Dakan, a déjà prêté le même serment supplémentaire que Talen. Cet après-midi, elle devrait emmener dans ma chambre Bernael Gilbarn, une autre rebelle, sans éveiller ses soupçons.
Par la lumière, n'importe quelle sœur hors de cette pièce pouvait être une noire.
Après, nous utiliserons ces deux-là pour en appâter une troisième, et ainsi de suite. Bien sûr, nous leur poserons la question essentielle, comme à Talen. Je l'ai fait avec Zera.
L'âge noire était peut-être déjà informé qu'elle le traquait. Comment Saïrin comptait-elle la garder en sécurité ?
Les sœurs qui donneront la mauvaise réponse seront interrogées sans douceur. Le châtiment des autres sera de combattre la Janoire sous nos ordres.
Comment, par la lumière ?
Après la tirade de Céane, ses compagnes débattirent pendant un moment, la preuve que Saïrin ne savait pas que décider. Yukiri plaida pour que Zera et ses complices soient livrés immédiatement à la justice de la tour, à condition que ça ne conduise pas à exposer leur propre situation vis-à-vis de Talen. À contre-cœur, Pevara conseilla d'utiliser les rebelles, même si leur propagande consistait pour l'essentiel à répandre des calomnies au sujet de l'âge rouge et des faux dragons. Doessin suggéra qu'elle capture toutes les autres sœurs de la tour pour les forcer à prêter le serment supplémentaire. Ses trois compagnes ne la prirent pas au sérieux, ce qui n'avait rien d'étonnant. Céane ne s'impliqua pas dans la conversation. En revanche, elle eut la seule réaction adaptée à ses péroraisons. S'isolant dans un coin, elle vomit tripes et boyaux. Elaine faisait tout son possible pour ne pas claquer des dents. Dehors, le blizzard frappait de nouveau Kemlin, obscurcissant le ciel de midi au point qu'il soit obligatoire d'allumer toutes les lampes accrochées au mur lambrissé du salon. Malmenée par les bourrasques, les vitraux des grandes fenêtres en forme d'arche grinçaient sinistrement. Des éclairs les illuminaient et les roulements du tonnerre devenaient assourdissants. Une tempête de neige, la pire forme d'intempérie hivernale, la plus violente aussi. Bien sûr, il ne faisait pas vraiment froid dans la pièce, mais se réchauffant les mains au-dessus des flammes de la cheminée, Elaine sentait le froid qui montait du sol, traversait les épais tapis et menaçait même de franchir la barrière de ses pantoufles d'hiver pourtant doublées. Sur sa robe rouge et blanc, le col et les poignets en renard noir étaient du plus bel effet, mais elle n'aurait pas juré qu'il la réchauffait plus que les perles cousues sur les manches. Refuser de se laisser affecter par le froid ne signifiait pas qu'elle ne le ressentait pas. Où étaient donc Nineveh et Vandaine ?
Elle devrait déjà être arrivée. Moi, je voudrais apprendre à n'avoir plus besoin de dormir, et ces femmes prennent tout leur temps.
Non, elle se montrait injuste. Quelques jours plus tôt, elle avait officiellement revendiqué le trône du lion, et depuis, tout le reste lui semblait secondaire. Nineveh et Vandaine avaient d'autres priorités, des responsabilités, aurait-elle dit. Avec Réanne et les autres tricoteuses, Nineveh cherchait un moyen de convaincre les membres épars de la famille de fuir les pays contrôlés par les Séanchaniens, avant qu'ils les démasquent et leur mettent un collier. Ces femmes avaient un don pour passer inaperçues, mais les envahisseurs, contrairement aux Aes Sedai, ne les tiendraient pas pour de banales naturelles. Toujours dévastée par l'assassinat de sa sœur, Vandaine se laissait dépérir et devait être hors d'état de donner un conseil à quiconque. Si elle faisait pour de bon la grève de la faim, en réalité, elle pensait exclusivement à capturer le tueur. Quand elle arpentait les couloirs aux heures les plus étranges, on la croyait rendue folle par le chagrin, alors qu'elle tentait de démasquer l'un ou l'autre suppôt des ténèbres. Trois jours plus tôt, l'idée qu'il y en avait dans leur rang aurait épouvanté Elaine. Désormais, ce n'était plus qu'une menace parmi d'autres. Plus dérangeante que certaines, sans doute, mais bon. Nineveh et Vandaine accomplissaient des tâches importantes. Même si Egwene les y avait encouragées et approuvait leur démarche, Elaine aurait aimé qu'elles se dépêchent un peu. Et tant pis si c'était très égoïste. Érudite et très expérimentée, Vandaine était une mine d'or en matière de conseils. Après des années de pratique auprès du conseil du village et du cercle des femmes de Chandemond, Nineveh était une fine politique, même si elle affirmait le contraire.
« Que la lumière me brûle ! J'ai sur les bras des centaines de problèmes, dont un certain nombre ici, au palais, et j'ai besoin d'elle. »
Si elle avait son mot à dire, Nineveh Almehara deviendrait la prochaine Aes Sedai détachée auprès de la nouvelle reine d'Andorre. Elaine avait besoin de toute l'assistance disponible, et les conseillères dignes de foi ne couraient pas les rues. S'efforçant d'avoir l'air sereine, la jeune femme se détourna de la cheminée. Devant, 13 grands fauteuils sculptés avec simplicité mais talent étaient disposés en arc de cercle. Bizarrement, la place d'honneur réservée à la reine était la plus éloignée des flammes. Encore un inconvénient qu'il fallait accepter. Dans sa nouvelle position, Elaine sentit son dos se réchauffer et son ventre refroidir. Dehors, une tempête de neige faisait rage. Sous son crâne, ça tourbillonnait aussi beaucoup. Se calmer, surtout. Une dirigeante avait autant besoin de sérénité qu'une Aes Sedai.
« Ce doit être les mercenaires, »
dit-elle, sans réussir à occulter complètement sa déception. Les premiers soldats de ces domaines arriveraient sans doute d'ici à un mois, dès qu'ils sauraient qu'elle était vivante. Mais il faudrait attendre le printemps pour que leur nombre soit suffisant. Quant aux hommes recrutés par Birgit, 6 mois d'entraînement seraient nécessaires pour qu'ils sachent se tenir en selle et ferrailler en même temps.
« Et des quêteurs du corps, si certains acceptent de me servir et de s'engager. »
Beaucoup de quêteurs étaient coincés à Kemlin par le mauvais temps. Beaucoup trop, selon les citadins. Des trublions toujours en train de faire la foire, de se bagarrer ou de harceler des femmes insensibles à leur charme. Au moins, Elaine les rendrait utiles à quelque chose. À éviter les problèmes, par exemple, au lieu de les provoquer. Enfin, c'était l'idée générale, même si elle avait du mal à s'en convaincre.
C'est cher, mais le trésor couvrira les dépenses.
Un temps, en tout cas. Si Elaine ne recevait pas très vite les revenus de ses domaines. Miracle des miracles, les deux femmes qui se tenaient devant elle réagirent de la même façon. Daeline eut un grognement irrité. Vêtue d'une robe vert foncé, elle ne portait aucun bijou, à part la grosse broche ronde en argent gravée aux armes de Taravine, la chouette et le chêne qui enfermaient le col. Un témoignage de fierté envers sa maison. de trop grande fierté peut-être, parce que la haute chère de Taravine était une femme des plus orgueilleuses. Ses cheveux blonds grisonnants, des rides au coin des yeux, elle continuait pourtant à afficher sa détermination et sa dureté, très visible dans son regard. L'esprit affûté comme un rasoir, ou peut-être le tranchant d'une épée, elle était connue pour son franc-parler. Enfin quelqu'un qui ne dissimulait pas ses opinions, avec un peu de chance.
« Les mercenaires connaissent leur métier, »
dit-elle, non sans dédain.
« Mais ils sont difficiles à contrôler. Quand tu as besoin d'un gant de velours, ils frappent avec une main de fer. Et lorsqu'il te faut une main de fer, ils sont occupés ailleurs, le plus souvent à piller. Ils sont loyaux à l'or et à rien d'autre, tant qu'il y en a dans tes coffres, et à condition que personne ne leur ait proposé un meilleur prix. Pour une fois, je parie que Dame Birgit sera d'accord avec moi. »
Bien campée sur ses jambes, les bras croisés, l'archère fit la grimace. Une réaction classique quand on lui donnait du « Dame », son nouveau titre. Dès leur arrivée à Kemlin, Elaine avait alloué un domaine. En privé, Birgit râlait d'abondance à ce sujet et pestait contre l'autre changement qui avait eu lieu dans sa vie. Si elle portait toujours le même style de pantalon, sa courte veste rouge était ornée d'un haut col blanc et de galons brodés d'or. Dame Birgit Traelion, capitaine générale de la garde royale. Autorisée à tempêter tout son sou, tant qu'elle ne s'y aventurait pas en public.
« Pour une fois, »
grogna-t-elle, avec un regard peu amical pour Dagelin. Depuis le début de la matinée, Elaine captait la même chose via leur lien. La championne était agacée, frustrée et déterminée. Mais une partie de ses sentiments était peut-être le reflet de ceux de la future reine. Depuis que le lien les unissait, les deux femmes se ressemblaient de plus en plus, comme des images miroirs. Sur le plan émotionnel, mais pas seulement. Par exemple, les règles d'Elaine étaient désormais décalées d'une semaine, pour correspondre à celles de sa championne. Peu ravie d'être d'accord avec Dagelin, Birgit fit bien sentir qu'elle n'avait aucune intention d'acquiescer à tout.
« Elaine, les quêteurs ne sont guère mieux, » maugréa-t-elle. Ils prêtent serment pour partir à l'aventure et se gagner une place dans l'histoire, s'ils le peuvent. Pas pour élire domicile quelque part et y faire respecter la loi. La plupart ont la grosse tête et regardent les gens de haut. Les autres ne prennent pas des risques quand il le faut. Non, ils les cherchent avec une lanterne. Qu'une rumeur circule sur le corps de Valère, et les deux tiers t'abandonneront en un clin d'œil, si tu as de la chance.
Dagelin eut un petit sourire, comme si elle venait de marquer un point. Comparé à ces deux-là, l'huile et l'eau étaient de vieilles amies. Avec les autres membres de l'entourage d'Elaine, toutes les deux s'en sortaient pas trop mal. Mais entre elles, eh bien, elles auraient pu se disputer sur la couleur du charbon. Mais pourquoi auraient pu ?
Mercenaires ou quêteurs, ce sont presque tous des étrangers. Voilà qui déplaira au peuple aussi bien qu'à la noblesse. Et tu ne voudrais pas provoquer une révolte.
Comme pour ponctuer ses propos, des éclairs déchirèrent le ciel derrière les fenêtres. En 1000 ans, 7 reines d'Andorre avaient été renversées par des émeutes. Les deux qui avaient gardé la tête sur les épaules s'étaient sûrement surprises à le regretter. Elaine ravala un soupir. Sur un des guéridons le long du mur, une carafe de vin aux épices reposait sur un plateau en torsade d'argent. Du vin tiède, désormais, mais un petit tissage de feu remédia à ce défaut. Réchauffée, la boisson avait un arrière-goût amer. La jeune femme apprécia quand même la chaleur du gobelet en argent ouvragé entre ses mains. Non sans peine, elle résista à l'envie de réchauffer aussi l'atmosphère avec le pouvoir. De toute façon, pour que ça dure, elle aurait dû maintenir le tissage. Sa répugnance à se couper de la source lorsqu'elle y puisait du saïdar, enfin maîtrisée, dans une certaine mesure en tout cas, Elaine éprouvait depuis peu une envie croissante de se gorger de pouvoir. Un jour ou l'autre, chaque sœur était confrontée à cette tentation. D'un geste, la jeune femme fit signe à ses interlocutrices de se servir.
« Vous connaissez la situation, »
leur dit-elle.
« À part une crétine, personne ne nierait qu'elle est délicate, et aucune de vous deux n'est stupide. »
La garde royale n'était pas plus fiable que les mercenaires. Une poignée de type convenable et 2 fois plus de gros bras tout juste bons à intervenir dans les tavernes en cas de rixe, quand ce n'était pas eux qui se faisaient botter les fesses. Les forces du Saldaea parties et les aïels sur le départ, le crime reprenait du poil de la bête. Le froid aurait dû doucher les enthousiasmes, mais il n'en était rien. Chaque jour, les incendies volontaires et les cambriolages se multipliaient quand on ne devait pas déplorer pire. En d'autres termes, la situation s'aggravait d'heure en heure.
Si ça continue, nous aurons des émeutes au plus tard dans quelques semaines. Quand un dirigeant est incapable de maintenir l'ordre, le peuple se retourne contre lui.
Si elle ne parvenait pas à contrôler la capitale, Elaine aurait plus vite fait d'annoncer au monde qu'elle ne méritait pas la couronne.
Je n'aime pas ça, mais c'est indispensable. Et ça sera fait.
Dailin et Birgit voulurent protester, mais Elaine ne leur laissa aucune ouverture.
Oui, ça sera fait.
Birgit secoua la tête. Alors que sa longue natte blonde oscillait en rythme, Elaine sentit de la soumission à travers le lien. Si l'archère avait une étrange conception de la relation entre Aes Sedai et sa championne, elle savait reconnaître les moments où il ne fallait pas insister. Une leçon apprise sur le tas. Le domaine, le titre, le commandement de la garde, sans mentionner d'autres petites choses. Dailin baissa un peu la tête et plia vaguement les genoux. Une révérence ? Peut-être, mais sans grande conviction. Parmi ceux qui s'opposaient à l'accession au trône d'Elaine Trakand, il convenait de s'en souvenir, beaucoup désiraient voir Dailin Taravin à sa place. Jusque-là, cette femme s'était révélée très coopérative. Mais la guerre de succession commençait à peine. Parfois, une petite voix murmurait dans la tête d'Elaine. Dailin attendait-elle son premier faux pas pour faire mine de sauver le royaume ? Une personne prudente et rusée pouvait avoir choisi ce chemin, avec de sérieuses chances de réussir. Elaine leva une main pour se masser la tempe, mais elle se ravisa et se lissa les cheveux. Tant de méfiance et de soupçons. Depuis son départ pour Tarvalon, le grand jeu faisait des ravages en Andorre. Par bonheur, durant son séjour parmi les sœurs, Elaine n'avait pas seulement appris à maîtriser le pouvoir. La plupart des Aes Sedai avaient le Daes Daemar dans le sang. L'enseignement de Tom avait lui aussi été précieux. Sans ce bagage, la possible future reine n'aurait peut-être pas survécu à son retour au bercail. Fasse la lumière que le trouvèrent soit sain et sauf. Qu'avec Matt et les autres, il ait échappé au Céan Chanien et soit en route pour Kemlin. Depuis qu'elle avait quitté Eboudar, Elaine priait chaque jour pour qu'il en soit ainsi. Une courte prière, parce que le temps lui manquait. S'asseyant dans le fauteuil réservé à la reine, elle se tint bien droite, une main posée dignement sur l'accoudoir.
« Avoir l'air d'une reine ne suffit pas », lui répétait souvent sa mère. « Mais l'intelligence, le sens de la politique et la bravoure ne te serviront à rien si le peuple ne te voit pas comme une souveraine. »
Birgit la dévisageait, presque soupçonneuse. Parfois, le lien n'avait pas que des avantages. Pensive, Dailin porta son gobelet à ses lèvres. Elaine prit une profonde inspiration. Après avoir retourné cette question dans tous les sens, elle n'avait pas trouvé d'autre issue.
« Birgit, au printemps, je veux que la garde royale soit une armée égale aux forces que 10 maisons peuvent mettre à ma disposition. »